Bonjour, merci à tous d'être là avec nous en ce jeudi soir, jeudi après-midi. On va parler rock et littérature aujourd'hui. Initialement, on avait Michael Moorcock qui était présent, mais malheureusement, il a annulé, rien de bien grave. Mais en échange, nous avons Richard Pinas qui va nous accompagner. Sur scène, Richard Pinas, qui est donc pionnier des musiques industrielles et expérimentales, guitariste, et qui a une longue histoire et avec la science-fiction, et avec Norman Spinrad, auteur notamment Jacques Baron, Éternité, Rêve de fer, et tout un tas de romans ensemble. Et donc, il y a 40 ans d'amitié sur cette scène, il y a 40 ans de lien entre musiciens et écrivains. Ils ont monté des groupes ensemble. Ils vont nous raconter un petit peu tout ça. Peut-être une première question sur comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux en 73. Qui veut commencer?
I start. We were in Los Angeles, and Peter Fitting, a professor, said there are people coming to LA that want to meet you. Richard Pinhas has named his band Helden after the fictitious country in Rave the Fair. So we say, oh, no, no, do we want to meet these people? Are they Nazis? Are they Nazis or what? And then Richard and Agneta show up and really weren't Nazis, right? No? So that's when we met, and that's when we became friends. Years later, Richard was one of the people who sort of invented electronic rock and roll, electronic music of the sort that was done also by about the same time by Kraftwerk. Kraftwerk, Richard? Kraftwerk, the band Allemand, Kraftwerk. With sort of similar kind of thing that you and Kraftwerk.
But,
yeah. So Richard says to me, I want you to do a vocal on an album called East West. And I say, I can't do that. I don't know anything about that. He says, don't worry, you have a vocoder. So I did it through a setup where I had the microphone and the earphones. So I heard myself in real time singing it through the vocoder, and I sounded pretty good to myself at that point. Years later, this was what inspired me to write Rock Machine, because the idea was, if I can do it as a semi-human robot, well, other people can do it too. And if other people can do it, maybe it can all be done virtually. And that's why that book is dedicated to Richard. So,
thank you very much. That's cool. Bon, je vais reprendre vite fait en français. Peut-être qu'on comprendra un petit peu mieux. J'ai rencontré Norman dans les années 73, quelque chose comme ça. J'ai créé un groupe qui s'appelait Helden à partir de son livre Le Rêve de Fer. Il faut dire que dans les années 70, les trois grands livres qui avaient marqué notre génération étaient Ubique de Philippe K. Dick, qu'on rencontrera après, d'ailleurs, avec Norman, on aura passé 36 heures avec lui. Jack Baron et l'éternité, Buck Jabone, le livre de Norman, et Dune, évidemment. Moi, commençant à travailler sur les synthétiseurs à partir des années 70, ayant un groupe définitif à partir des années 72-73, bien entendu, j'ai choisi le titre d'Eldom comme nom du groupe, et on a commencé une aventure comme ça entre 73-79, qui a pas trop mal marché, qui continue maintenant sous d'autres noms. Mais je sais pas, c'est très intéressant. Mais j'ai eu un rapport spécifique, non seulement à la science-fiction, mais aux auteurs en général, puisque j'ai commencé à travailler avec Gilles Deleuze. On a enregistré un morceau ensemble qui s'appelait « Où est marché mieux qu'en 68 ?» qui en fait était sur le thème du voyageur, un aphorisme de Nietzsche. Puis après, les expériences avec Norman. Enfin, j'ai enregistré 3 albums avec Maurice Zantec. Et prochainement, ça c'est encore un secret, devrait se faire Jérusalem avec Alan Moore. Ah, oui, et oui. Voilà, donc depuis le début, il y a un lien intrinsèque entre les concepts. Il faut dire que j'ai fait de la philo entre temps, bon, ça arrange pas le bonhomme. Entre les concepts fondamentaux, je pense être ceux de la philosophie, à savoir le temps, la durée, le process, enfin des choses comme ça, et la musique, la répétition, la différence, et la musique de synthèse analogique, celle qu'il y avait au départ, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, en ce qui concernait les synthétiseurs. Et les concepts de différence, de répétition, de notes répétées, de tessiture, de process, surtout celui de process, de temps, de différence, de durée étaient les concepts principaux. Donc il y a eu immédiatement une espèce de symbiose entre la musique à laquelle j'ai été voué par hasard, hein, c'est, ce qui me plaisait le plus comme lecture à ce moment-là, la science-fiction. Après, bah, j'ai lu Céline et les autres. Bah, bon. J'ai eu la chance de rencontrer Norman, d'avoir une longue aventure avec lui qui continue, et surtout de rencontrer Philippe Kadic et Maurice Zantec, bien sûr. Là-dessus, le groupe a fonctionné jusqu'en 79, et puis après, je suis parti solo. Et c'est sur un album qui s'appelle East West, qui est sorti chez CBS, que Norman a chanté. C'était une tentative de prendre quelqu'un qui ne sait absolument pas chanter du tout, qui est incapable de. Mais comme moi d'ailleurs, je suis incapable de mettre deux mots justes et d'en faire quelque chose qui est chanté, qui soit complètement juste. Donc c'était une des premières opérations comme ça. Et on est censé répéter « We're gonna repeat this kind of try » avec une seule chanson pour une bande dessinée qui sortira chez Casterman dans un an ou deux, fait par Yann Legendre, qui a fait de nombreuses pochettes. Voilà, pour le moment.
Je rembobine un petit peu. « Eldon » est donc tiré de « Rêve de fer ». Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement pour...
Tout.
Tout. Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans le roman de Norman pour en faire le nom de votre groupe?
D'abord parce que le... Il faut dire qu'à l'époque, j'étais militant trotskiste. Je ne suis pas resté longtemps. Hein. J'ai dû arrêter en 72-73, heureusement. Marrant, être trotskiste sans être léniniste. Enfin bon, à l'époque, il y avait plein de choses bizarres. Bon, toujours est-il que le fait que ce soit un livre écrit par Adolf Hitler, qui racontait une espèce de surhumanité, qui soit en même temps extrêmement barbare, dans un style qui correspondait exactement à le rythme de Norman dans ce livre, est exactement celui d'une machine nazie. Hein. C'est incroyable. D'ailleurs, ce qui est très fort chez Norman, c'est qu'il arrive à changer de style à chaque livre. Et ça, c'est quelque chose de... En général, on dit qu'un auteur, que ce soit un musicien, que ce soit un écrivain, a sa propre signature, et on le reconnaît à ça, à son son ou à sa manière d'écrire. Dans le cas de Norman est un peu l'exception qui fait règle. Lui a un style différent à chaque fois. Et le personnage principal, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas relu depuis 40 ans, mais je ne relis pas les livres, en général, je les imprime bien. Il y avait le rôle principal de Féric Jagar et l'album était une espèce de grand mélange qui s'appelait Electronic Guerrilla, titre pris du livre de de Burroughs. Il était dédié à Philippe Kadic et à Robert Wyatt et Norman était impliqué dedans, ne serait-ce que par le titre. À partir de ce moment-là, je lui ai envoyé le disque, on s'est rencontré à Los Angeles une première fois. Et avant qu'il n'aille s'installer, before you go to make your home in New York, we see a couple of times and we meet Phil Dick, yeah, together. And we have a long story of 45 years, maybe.
45 years, yeah. 45 it's years. A long histoire.
I love you.
But the other question, I guess, is the other side. Why? To writers of this kind of fiction get interested in working with musicians. Mike Moorcock was supposed to be here, but his wife got sick and he couldn't. But Mike, and also with another band, Oyster Cult, whatever's it called?
Yeah,
Blue Oyster Cult, Blue Oyster Cult, yeah. And also John Shirley had a band. It's a good thing he didn't give up his day job. Not too good. So, but there is there's some kind of creative connection, I think.
At this time, there was a direct relationship between musicians, some musicians, I mean, what's so-called avant-garde musicians.
I can speak French,
yeah, I try. Il y avait une connexion assez directe entre les musiciens réputés d'avant-garde, c'est une notion que j'aime pas trop, mais, et les auteurs de science-fiction qui étaient les plus ouverts. Et à une époque où la science-fiction était peut-être ce qu'on appellerait en philosophie, hein, une certaine philosophie, la pointe de déterritorialisation de l'écriture. Ça, c'est valable pour les années 70. Pour ma part, je pense que la science-fiction n'existe plus. Pour la bonne raison que les meilleurs, enfin ceux que j'admire le plus, les écrivains de science-fiction eux-mêmes ont dit que la réalité a tellement dépassé la fiction, dans toutes les optiques ou dans toutes les voies, dans tous les process qu'on pourrait prendre, que c'est même plus la peine d'essayer de penser un avenir ou un devenir de l'humanité. Ça, c'est plutôt l'heroic fantasy qui s'en sert. Mais alors, s'ils veulent continuer à écrire, ils font plutôt des polars ou de la politique ou des choses comme ça.
Dans ce que vous dites, dans les liens entre littérature, science-fiction et musique, c'est quoi qui se rencontre ? C'est la recherche de nouveaux concepts ou d'explorer de nouveaux territoires ?
C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on travaille principalement sur la matière et sur les mêmes concepts. Difference, répétition, process is one of the main concepts. Difference, repetition, concept. What about the clear future? That's a question we can't have today because we know what's going to be the future.
Well, but also, at that period, in the 70s, Richard, along with, say, Kraftwerk and a few other bands, this was before people had computers, really, and Richard had a big breadboard and plugging it. So Richard and Heldon were involved in inventing the future of this kind of computerized music, which we take for granted now. So that he was creating the future.
J'essaie de traduire ce que veut dire Norman, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de computer encore. Les premiers qu'on a pu avoir sous la main, c'était en 80-81, avec les X4 et les Macintosh, les premiers. Et donc, on travaillait en synthèse analogique. C'était des énormes synthétiseurs Moog qui prenaient, je ne sais pas, sur scène, on avait un truc qui, il fallait 5 personnes pour les porter. Et il n'y avait qu'une dizaine ou une douzaine de personnes qui travaillaient sur les synthétiseurs à l'époque. En France, on devait être 2 ou 3 en Angleterre, 2 au Japon, 2 aux États-Unis, et encore 4 ou 5 universitaires, c'est tout. Plus 4 groupes allemands. Donc on s'est retrouvé avec une toute petite communauté, mais qui était pas mal. C'est-à-dire, il y avait Tangerine Dream, Kraftwerk, Brian Eno, bon, des gens fréquentables, quoi. Et chacun venant avec son approche personnelle. Mettons que la plus brillante a été celle de Kraftwerk, celle qui a percé le plus et qui a popularisé la musique. Ça, c'est pas mal. Peut-être qu'au niveau de la musique pure, c'est Brian Eno qui a porté le plus. Mais chacun est arrivé avec ses petites synthèses et ses machines, plus ou moins grosses. Mais à l'époque, il n'y avait pas de synthétiseur, au sens de computer pour faire ça. C'est-à-dire qu'on avait d'énormes machines qui devaient se relier. Elles étaient modulaires, analogiques, elles devaient se relier les unes aux autres. Et que, par exemple, en concert, il y avait 4 à 500 kilos de matériel à trimballer à chaque fois. Voilà, c'est compliqué. Mais effectivement, c'était ouvert à l'invention, puisque rien n'avait été fait avant. Donc, les premières choses travaillées au synthétiseur ont été faites dans les années 67-68. Avant, il y a eu des compositeurs qui se sont servis d'oscillateurs, que ce soit Stockhausen ou d'autres gens comme ça. Mais c'est encore une autre forme de musique. La première fois dans la musique populaire où effectivement ça apparaît, c'est après les années 70. Il suffisait juste d'être né à ce moment-là et puis wow, c'est un coup de bol.
You know, I don't know if you know this, Richard, but Robert Sheckley did some stuff with Eno too. No, he did. I think they made an album where Sheckley did the words or something like that. Or maybe it was some kind of book of Bob's that Brian Eno did some kind of thing with, yeah. So there was a connection, now I think about it, with also with Robert Sheckley, And you know, and I got to tell this story. When we finished doing the East West, I felt wow. I've just done this thing, blah blah. On that thing, and Richard insisted, and I wanted to. Brian Eno was playing in this little bar.
It was Fripp.
That was so you didn't mention. Yeah, Fripp was another important person in all of this. So we had to go there, and Fripp was getting food off the bar, but I couldn't get food. But Fripp was an interesting part of this too, I think.
Of course. Yeah. We was talking about electronic music and synthesizer. Fripp is a pure guitarist. He was playing, and every day after a studio session, we stop at 8 to see him playing and spend the night with him. But that's another part. Don't want to be too much confused.
Well, I think what Fripp was doing, he was doing these, recording stuff in a small bar, then doing another recording, and then mixing it afterwards. And that's the way he wanted to start doing things. Am I right about that?
He was making a long delay lines. Yeah, yeah. So the sound comes and disappears. So there was no looping at all. So until now, I don't play with loop neither. I play with very long delay, and you can command the length of the delay and the stereo wideness and etc.
So this really was the religion of the few. This was really the music of the future that was being made.
I can say that the music of today have been made in the early 70s. Yeah. But we don't know what's going to be the music of the future, because what we have done in the 70s is like in philosophy. All the great philosophers like Deleuze, Foucault, they explain what happened today, but not what will be happening in 20 years, for example. And we we can't say what will be the music in 20 or 30 years.
No, I mean...
Probably something else, completely else.
Well, that's the same thing. Writing science fiction, there were things you were writing about in the 70s or 60s which already happened, and now you have to think another 20 years in the future. Maybe the same thing... Well... same thing with the music. I was involved with something else with Sila Mustaki to do Rock Machine as a big show in the Stade de France.
Where is the money?
That was the problem. The Stade de France wanted it. Sila Mustaki is a friend of ours too, and he was an important impresario, still is. So we go to Stade de France and talk to the Caïd, and we brought along Jodorowsky.
I'm very happy about something you say, is that at least one is still alive, because everybody's going to die right now. Yeah. So
Jodorowsky is still alive too, I think. So is Sylvain. But so they were willing. And Sylvain had a connection with people who were doing like big street robots and all kinds of stuff, and we were going to do something that had never been done before, in a round thing with music from Rock Machine and all this other stuff.
I have a question for you,
and how
that
much?
Interests me, maybe interests the people. As a science fiction writer, or just as a writer, or whatever you want. What is your vision of the future in the 20 or 30 years?
Well...
And be honest, please.
Well, there is no one future. There is multiplex possibilities. You're very familiar with Phil Dick, so you don't know. But what I usually say is the future you get is the future you create. You meaning everybody, or you meaning just you or me? The fiction.
Your opinion, or what you think.
Well, I think what's happening now is something very dangerous. You can see, I'm an admirer of the European Union. It was something new. It was taking 3,000 years of war here and supposedly stopping it. Now, because of what you see in the media, you see it's becoming more tribal again. Yeah. It's becoming more tribal. And the day that that thing happened in Barcelona, we were there. In Barcelona, in Myanmar, in Syria, in all over Europe, in places like Sweden, there is an anger that's not very rational, that's tribal, and it's spreading. And America is the worst example of this. And the media has become very dangerous to democracy, as witnessed Donald Trump. Some political parties don't mean anything anymore. You have Donald Trump, and you're the one who told me that Macron was going to be bad news.
You will see, but I agree with what you say about newspaper and democracy, but I never believe in democracy, so. If you never believe in this, you're not very astonished in what is happening. I don't know if you remember, before the Brexit, I told you that there will be the Brexit. Before Trump was elected, 6 months before, I told you, and I'm French, I don't live in USA, that Trump will be elected.
It's the same thing in a way. You know, there was a right-wing politician in America who said,
not in England. Normal people in England hate London. They hate London. They hate London. London is a cosmopolitan city who belong to rich people or very poor one. But the average English people hate London. They like the small town, the small country, and they all dream to be in their happy land.
And you see the same thing in the United States, only worse right now with Trump. And you see it in a lot of places. I think that people are going back into the past and they don't have hope for a future that's changed, that can be better or something like that.
It's very strange that, for example, in America, in USA, sorry, not in America, the racial question that was ahead 50 years ago, and 20 years ago you think that, well, the question was solved. In a good way to be solved, and he come back in the front line, and it's very hard for a French guy to understand it, you know.
You know, it's also something about the music that has bothered me for a while. We saw the Emmys, you know, the big prize for, and the music was lousy. It didn't mean anything. It wasn't musically interesting. It was the best product to sell. I'm not talking about rap.
Yeah.
When I first heard rap, I thought this was great. That the idea that they were following the bass line instead of a melody. Wow. Now it's
become very political.
It's not an interesting bass line anymore.
No, it's only money question.
Yeah. So we try and do it a little bit different.
We try,
With what we're going to do next, and what Jan is doing, really, with the bande dessinée too. He's trying to do something like that.
I think so, yeah.
Yeah.
Question. On voit bien la situation, on parle de la situation politique, on voit bien comment est-ce qu'elle innerve les idées en science-fiction. Est-ce que la situation actuelle vous influence ou vous donne des idées pour la musique? Est-ce que c'est la même chose, le même processus?
Pour moi, c'est très simple. La musique est à partir du moment où j'ai arrêté, entre guillemets, de faire de la politique. Mais quand je dis faire de la politique, c'est l'époque où il y avait les problèmes du Vietnam, mai 68, tout ça. Bon, donc on oublie. Ne croyant pas dans le système, je vote pas, évidemment. Et j'ai pas voté non plus pour des gens qui vous... XXX, il faut mettre bip, des fois. Je parle de la politique au niveau national. Hein. C'est sûr qu'après, localement, effectivement, c'est très différent. Je pense qu'on va arriver vers un peu quelque chose qu'on a connu au Moyen-Âge, c'est-à-dire des espèces de guildes tenues par les multinationales. Et c'est vrai que pour ce qui est, par exemple, des médias qui font et défont les premiers ministres, les présidents de la République, bah, il y a 4 propriétaires en France. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il en reste 4. C'est un peu le même problème aux États-Unis. Et qu'aujourd'hui, en tout cas, la caste politique, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, représente strictement plus rien. Il n'a plus aucun pouvoir. Bon, le pouvoir est aux mains des multinationales. Il n'y a même plus besoin d'avoir une pantomime. Mais je veux dire, ça paraît complètement évident aujourd'hui, ça l'était il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, c'est transparent pour tout le monde, donc, enfin pour la plupart des gens. Mais pour ça, quand je disais je crois pas en la démocratie, c'est dans ce sens-là. Quoi.
Mais est-ce que vous, ça vous influence dans votre travail ?
Alors moi, je pense que même... Alors voilà, excuse-moi, j'ai pas répondu. Je pense que quand j'ai arrêté de faire, entre guillemets, de la politique, donc très tôt, 72-73, je pensais que le meilleur moyen de faire de la politique, c'était la musique. C'est-à-dire que pour changer quelque chose dans la vie, la mienne, dans la vie des gens, la meilleure manière de le faire était de faire la meilleure musique possible. Et la plus, on va dire, la plus barrée, la plus imaginative, celle qui porte le plus de devenir, quoi, le plus de positivité. Et donc la seule réponse que j'ai au terme de « est-ce que tu fais de la politique ?», c'est « oui, ma musique est immédiatement politique ». Donc voilà.
Je reprends un peu le fil de notre histoire. Dans les années 90, vous montez un groupe avec Dantec, en 2000, pardon. Qu'est-ce qui vous intéressait chez Dantec ? Et puis, est-ce que vous pouvez me parler de la métatronique ? Ça va vous concerner, normal.
J'ai lu Les Racines du Mal avec beaucoup de retard, 4-5 ans après. Et j'ai vraiment flashé sur ce livre, ce qui m'arrive rarement. Enfin, j'ai rarement l'envie de travailler avec quelqu'un. Hein. C'est arrivé avec Deleuze, c'est arrivé avec Norman, c'est arrivé avec... Dantec, donc c'est le dernier, le prochain sera après. Mais... et j'ai son numéro de téléphone via les éditeurs, et il s'avère que Dantec était fan de Mamdic, ce que je ne savais pas. Et quand je lui dis, voilà, je m'appelle comme ça, et là il y a un énorme blanc, et puis j'entends appeler sa femme, il m'appelle. Si fait bon, on est tombé un petit peu amoureux l'un de l'autre, amicalement évidemment. Et on a passé des mois et des mois, mais 24 heures sur 24, à discuter de tous les sujets qui nous préoccupaient, les sujets intellectuels et ainsi de suite. Et puis là-dessus, on décide, par chance, on a un budget quasi illimité en studio pour faire un disque. Et donc, on décide de faire un disque avec pas mal de musiciens, pas mal de choses. Et le disque sera raté, ça serait celui qui aurait dû être le Eldon d'après. Norman partit. Mais par contre, à l'intérieur du disque, dès que tout le monde allait manger, Maurice et moi, on faisait autre chose. On avait une espèce de machine de guerre à deux. Low cost, vraiment low cost, c'est ce qui a donné la naissance au projet Schizotrope, où les textes étaient de Nietzsche, de Deleuze et de Maurice, dit par Maurice, avec vraiment une machine métatronique qui en fait est un peu l'équivalent de ce que sont les Frippertronics pour Fripp. C'est une machine qui permet à la guitare de produire des sons, de les étendre, de machiner les sons, quoi, d'avoir une signature propre, tout en les contrôlant absolument.
Et dans les thématiques, qu'est-ce qui vous intéressait chez Maurice Dantec ?
Il faut dire qu'à l'époque, des Racines du Mal et de Babylon Babies, il n'avait pas encore pris son tournant de... tournant un peu paranoïaque. Et il a fallu 6 ou 7 ans pour que je me fasse à l'idée qu'on ne s'est pas trop parlé pendant 6 ou 7 ans. Et j'ai eu la chance de l'avoir au téléphone deux mois avant sa mort. Et c'est très bizarre parce que je l'appelais de Nantes. J'ai toujours habité à Paris, donc personne n'avait mon numéro à la maison à Nantes, j'avais juste le portable. Et il y a un blanc qui dure 30 secondes et il me dit « Richard ». Il savait que j'appelais comme ça. Et bon, après, il a été très mal entouré, très mal conseillé, etc. Bon. Après qu'il ait eu une illumination sur le thème « Le roi, le Christ », ça n'a jamais été quelqu'un vraiment d'extrême droite. Quoi. Je veux dire, si le simple fait de parler à des gens qui sont, je ne sais pas... Moi, j'essaie de parler à tout le monde. Après, j'en tire ce que j'en tire. Mais il y a des gens aussi bien, certainement mieux, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. C'est-à-dire que l'extrême gauche a beaucoup changé quand même. Et je me fie plus du tout aux opinions politiques des gens. Quoi. Je pense que chacun a sa propre identité, peut dégager des choses bonnes ou mauvaises pour moi, bonnes ou mauvaises pour la vie en général. Et que les notions de gauche et de droite n'existent plus depuis très longtemps. Que ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve à tout bout de champ. Quoi.
Et Norman, alors comment vous vous retrouvez dans ce projet avec et Richard et Maurice Dantec ?
Wow. combien de 3 mois ou 6 mois? 6 mois pour faire la chose avec Maurice et Richard. Et ça marche très bien. C'est un peu difficile, mais c'est un autre Maurice. Hein? Il change.
Yeah.
Pourquoi?
Non, Maurice était très bien, mais il faut dire que être producteur, compositeur, producteur et jouer, et en même temps avoir à gérer des personnalités comme Dantec et Norman, c'est pas facile. Le premier ingénieur du son a arrêté au bout de quelques mois, a dit bon, pour le reste, vous... Ah oui, les gens tombaient comme des mouches, quoi. Mais bon, voilà. You have to talk about your experiment with on this long project with Maurice and you.
Well, Maurice and I wrote all the lyrics. And Maurice did some of the vocals. I didn't do any of the vocals on that. I don't think on, no.
Maurice later.
Yeah, he did, didn't
he? We have David Core.
David Core did most. I think Maurice did one car. No?
Only on Schizotrop.
Well, anyway, Maurice and I really wrote the lyrics. And Richard more or less did the music, but there was a collaboration in both ends, because we spent the first, 2 weeks in a different rehearsal studio somewhere else. So we put the thing together in a small situation all day for like, I don't know, 2 weeks. And so that when we came to record it in a decent studio, we were pretty well advanced in what we wanted to do. And It was a good experience. There wasn't any really bad moments of.
It was a good experience. Il faut dire que les studios à l'époque étaient très chers à louer, encore jusqu'en 2000. On travaillait pas comme aujourd'hui avec des home studios très performants, etc. Mais c'était des très grands studios avec dans lesquels on pouvait. Il y avait plusieurs studios à la fois. Là où on travaillait, c'est des amis qui m'ont dit, pour une fois, on t'offre l'enregistrement. Ouais. Tu prends le temps que tu veux. Et il y avait des studios à tous les étages et nous, on était dans un des deux plus grands et on avait le matériel installé à demeure pendant 6 mois. Tout ça, il ne faut jamais avoir un budget illimité. Je pense que tous les films qui ont eu un budget illimité, d'ailleurs, se sont cassés la gueule, plus ou moins. Et que c'est bien d'avoir un moment où il faut être à 95% de ce qu'on peut faire et pas à 102%.
Et vous avez fait les transmusicales, tous les deux, de Rennes.
You talk about transmusicales in Rennes.
About which?
In Transmusical, when we played.
Transmusical. Oh, in Rennes. Oh, that was really great. It was a literary conference, and at the end of that, just as I was getting on a bus, the guy who was running Transmusical said, "I'd like you, and Richard." To come to do a thing in Transmusical. At that time, I had done some vocalizations and stuff. So I talked to Richard. We said okay, and then we said, well, why don't we bring the whole band? And we brought a drummer, and we brought our David.
Some girls singing.
in some fairly small car, with all the stuff in it, and. We got there, we didn't get the big stadium to perform in, which was a basketball stadium with 20,000 people, So, we went somewhere towards the periphery, which was a smaller place.
20 people.
But they did the right thing. It was great. It's much better to crowd a small place, because then when we went to see other bands playing the other place, there would be, 1,000 people in a place for 2,000, 20,000 looked really grim. So I think that was the best, that was the one I enjoyed the best, I think, was the one in Transmusical. And there's an example. It came out, it's really a good example. The literary conference was not a science fiction thing. It was literary, Mike Moorcock might have been there, I don't remember. But it was a guy who ran Transmusical who came to the literary conference and approached me to do this thing with Richard. So there's another place where the fiction and the music cross like that. That was one of our best things. And all we had was beer.
Beer.
We had nothing.
I don't drink, so.
Well, you know what I mean. But
beer. Oh, yeah. Beer. Okay.
Et quel est votre regard, vous, d'écrivain, sur ces expériences en musique? Vous qui écrivez des romans plutôt tout seul chez vous, là, d'un seul coup, d'être dans ces expériences-là et ce dialogue-là.
I forget what I already said, but doing East-West, where I was going through the vocoder and doing all that stuff, years later, before MIDI, or just before MIDI was invented, I wrote Rock Machine, a little bit in the future, where if I could do this as a half robot, well, maybe you don't need the half at all. And so that was directly interesting. There hasn't been too much of that except from George Martin, who wrote a thing called Armageddon Reg, which is the best, one of the best science fiction novels, directly about music, and also Somtow Sitaritkul did a book like that. It was very good. There's not that much of it, but so there have been, not just me. Rock Machine was directly, about the business, the songs, the new machinery, and there was again another cross between science fiction and music. And Somtow Sitaritkul did something similar. I can't remember the book now. It was like a vampire star. It was really strange stuff. And also, George R. R. Martin wrote a thing called Armageddon Reg. And that is how I, here's a story. When George Martin wrote Armageddon Reg, he quoted a lot of, I'm going to tell this story, it's a bad story. He quoted a lot of lines from songs. And his publisher said, you got to get permission for all of that, and you got to pay for it. So, fuck. So it caused him a lot of money and a lot of grief to get the book published that way. And this is the thing I got to say. I don't want to say this, but I will. I was a big fan of Donna. Who? Anyway, it was what? Crown of Creation. It was the name of the thing. And I was president of science fiction or something. And I got a thing that said that every word of lyric in their lead song was stolen from a novel, from a science fiction novel. Crown of Creation is what it's called.
I didn't read it.
And I didn't know what to do because I was a big fan. I didn't do anything. But then when it came to me with Rock Machine, they said, well, I was originally trying to do what George Martin did and use existing things. And they said, you got to do what George Martin did and call all these people and pay them. And I said at that point, screw that. I'll write it myself. And that's why the lyrics in that book were all mine. And then we did about, I don't know, three different versions of Cyborg Sally.
On a fait un album qui s'appelait Cyborg Sally aussi.
And that really pisses me off. If we can quote, if they can quote us, if the musicians could, never mind stealing the whole thing, they quote us and they demand being paid for the rights. But if we use their stuff, they demand to be paid.
But it was
if
like
we
this
do it the other
time,
way around, yeah. They don't pay us.
No, no, nobody they? Pay nothing. So
they
the
did,
internet,
oh, they
we
did,
are,
they
we
did,
are.
They did pay in the States.
So,
yeah.
so few.
It happened
so
to George Martin. They really came after people. I had some problem with Bob Dylan about that. Who wanted
no.
it to, yeah, yeah.
Bob
yeah.
Dylan was not a fan of your.
I don't know whether he was a fan. No, I just wanted money.
I wanted money.
Everybody's a fan of that.
Et Norman, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la musique de Richard pour faire Rock Machine?
Why do you like me? Why do you like my music?
What I like about your music is that it's multi-level. And I remember I listened to some of your stuff on an ordinary machine, which was good. But then I put on a better system and I heard things that were below the top and below here and below there. So it's kind of three-dimensional in a kind of way like that. And I just want, you know, I got to ask you this because there's a connection between Rev de Fer and Adolf Hitler and Wagner and you. You really are influenced by Wagner.
Yeah. Not much by Hitler.
No,
but by
not much. Well, and then you, well, you know, but I mean, no, there's something interesting there. Richard is a very educated musician. I've seen him write scores of the stuff he's doing and handing it over on paper. I don't see how anybody can do that. But you really are, in some ways, are influenced by Wagner, aren't you?
Everybody is influenced.
No, I mean, you know, kind of directly.
I think that we have this relationship because we have the same feeling in your books and in my music. So the encounter was, you know, only by the feelings.
Yeah, but the question is, what is the? You know, I mean, music doesn't take place in a historical vacuum. So there must have been something about what Wagner was doing that.
Wait, do you like Wagner?
Yeah.
Oh, cool.
That had some kind of connection. Mm. I'm not sure what it was. I don't think it was political. I hope not.
No, not of course not. Of course not. No, it's an infinity of the what's so-called leitmotif, the motifs. So they can go until the infinite. So. That relationship, but I think what makes us the big connection is that in your book and in my music, maybe there are the same feeling developed by words from your part and by music from my part, or maybe by words from my part or by music for your part.
And not from Hitler, but No, that's one of the things I like about your stuff and about in general, is that. You're not starting from nowhere. I mean, you're an educated musician, really, and you can take here and take from there, and you know what you're doing, and you're not confined by the kind of thing you saw in the Emmys, which was, you know, the 3-minute blah blah blah, and still doing albums now, as you said, that albums are difficult now, because everything is shifted to the single song, yeah.
But I like to do a 1-hour album, that's good.
Yeah, why not? And so that's what we did with the
Houston
Only Chaos Is Real.
Yeah.
Continuing form of the art of music, not just 3-minute pieces of this and 3-minute pieces.
It's a complex and a process.
I really can't imagine the same kind of connection between science, you know, speculative fiction, and that kind of music. It's not there. It's not there. Unless we make it there.
No, not at all.
Est-ce qu'il y a d'autres auteurs avec qui vous auriez aimé travailler ou la musique de leurs livres vous aurait inspiré?
Des auteurs de livres?
Ouais. D'autres
vivants,
écrivains, oui.
Vivants.
Ou morts, pourquoi pas?
Ah bah oui, mais morts. Morts plein. Ouais. Mais des vivants, non. Ouais. Ouais, c'est évident que travailler avec Kafka ou avec Céline, j'aurais bien aimé, mais...
Attention au micro.
Des vivants, non. Il y a ce projet qui devrait marcher avec... autour de Jérusalem, mais bon, ça c'est très récent. Je veux dire que la lecture, est, j'ai pas lu en anglais, hein, c'est trop long pour moi. Et il y a un autre projet avec Norman, mais c'est déjà pas mal, parce qu'en général, je fais de la musique sans parole, donc c'est des exceptions, on va dire ça comme ça.
Et alors, deux questions. Sur Jérusalem, comment vous travaillez avec
Je
Alan
sais pas
Moore,
encore. Oui, encore, oui, ça ouais. sera avec lui.
Enfin,
comment
comment vous bossez tous les deux, en fait
Non, on va bosser en février dans un studio en Angleterre. Bah, dans la ville qui ne quitte pas.
Oui, à Northampton, oui.
Donc j'ai bougé, voilà.
D'accord. Et le projet avec
si,
les deux.
Nous sommes tous les deux vivants.
Oui, ouais, en 6 février, on...
Bah. On ne sait pas.
Toucher du bois. C'est de l'aglo. Mais, et votre projet à tous les deux, donc, sur lequel vous travaillez?
C'est une chanson qui fera partie d'une musique qui accompagne une bande dessinée. Et la bande dessinée est faite par Yann Lejean, qui est un illustrateur qui fait des pochettes pour un très, 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 très haut niveau, extraordinaire. Et qui m'a demandé de faire la musique. Là-dessus, il a demandé à Norman de faire un poème, donc je les ai mis en contact. Donc il y a un poème dans le cours de la bande dessinée, et on va en faire une chanson.
And when I was asked to do it, I was asked to do a poem. Now, I don't write poems. I write lyrics.
It's the same thing.
No, it isn't.
No.
Okay. It really isn't. There are some lyrics that work as poems, and there are some poems that work as lyrics, but they're not the same. For me, they're not the same thing. Like when I did Rock Machine, I couldn't write those lyrics without having the music in my head. Not that I could sit down, because I really can't play anything very well, but the music in my head and the lyrics came at the same time. That's doing a song. It's not doing a poem. That's what I said. It's, well, I'll try and do a lyric. As long as I'm doing this, that's what I can do. And originally, maybe it was just going to be printed as a poem, and Richard's music was going to be separate. But now we're going to do a song, right?
Yeah.
Yeah. I don't know how it worked for anybody else who was doing this, but that's the way it works for me.
We'll just be astonished of what we call a song. Well, it can be very strange.
I'll tell you, I can do lyrics, and the lyrics, at least for me, because of the way I do it, make a melody. I can, you know, I think of the lyrics. I think of melody. I can do melody. I can't do anything else. Richard can do everything else. Melody is not the center of what you do, is it?
No. Very in the material of the process of the music. Not so much even in the melodic things, you know. I'm more in the what's so-called matière, you know.
Et comment est-ce que vous allez travailler? Vous allez attendre d'avoir le poème pour composer.
Non, ça y est, le poème est fait.
Poème est fait,
ouais.
D'accord.
Donc, le boulot est pour moi. Et après, il va falloir enregistrer. Mais ouais. Ça va, on a le temps. Hein,
parce que oui, bien sûr. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous avez travaillé à partir de ce poème-là?
À partir de ce poème, j'ai essayé de faire quelque chose mal dégrossi. Après, on va se retrouver tous les deux en studio, puis on va...
See, the poem or the song is also specifically for a certain part of the story in the bande dessinée.
Yeah.
So... I said, you got it. This is what you have to say.
Mais c'est ça le côté travail de l'histoire. Là, il faut travailler, quoi. Au sens, il y a du boulot, quoi.
D'accord. Super.
C'est pas, on s'amuse à créer, à écrire. Il y a une idée, maintenant elle est écrite. Il faut arriver à ce qu'on peut faire de mieux à partir de ça. Et ça, c'est le boulot.
Ouais. Un boulot à contrainte, comme ça.
Oui, sur une chanson de 3-4 minutes, il y a des contraintes,
Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît
C'est ce que je sais faire le moins bien. malheureusement. Mais bon, il y a des gens qui font... Moi, je suis très admiratif des chansons, par exemple, des Beatles ou de, je sais pas, de Dylan, ou des chansons qui font 3 minutes, 4 minutes, des Kings, parce que c'est très difficile à faire, contrairement à ce qu'on pense. Le plus simple est toujours le plus difficile. Réellement, hein, je pense. Réellement ça. Mais bon, je suis ailleurs, c'est comme ça. C'est déjà pas mal, tu vois.
On arrive à la fin de ce double entretien. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos invités ? Parler de Rock Machine, parler de la musique de Richard Pinas. Oui, Donna.
First of all, on the last topic, I have an ongoing argument. I believe that music and poetry should be able to stand independent of each other and combine to make another thing. Second, I believe you're dealing here with two incredibly creative human beings who express themselves because they have similar consciousnesses of evolving consciousness. They have different medium in which to express them. And I think one of the biggest problems now is the way in which this work is published and its ability to be published. What has happened to fiction and what has happened to music, which confines creative truly people from being able to express themselves as freely as they were at one time.
Well, I never said that poems couldn't be lyrics or lyrics couldn't be poems. Sometimes they are. Bob Dylan just got a Nobel Prize, for crying out loud.
It's real poetry, what he's doing, Bob Dylan.
Yeah, I mean...
I mean, he deserves the prize and the $1 million that go with it.
Yeah, what is the difference?
Not all
for
words.
For me, if I'm writing whatever it is, poetry or lyrics, the lyrics... create a melody, and a melody creates the lyrics. That's me. Now, but you can certainly write poetry that doesn't do that, and you can write songs that don't do that either.
There is an internal rhythm in the 100% poetry without music. There is an internal.
Oh yeah, sure. But you know, we read a book about ancient, you know, Greek poets, and actually. They were all performers. Nobody could read. So your poem, like it or not, and this is the way they worked, was a song, because that's the only way anybody's going to hear it. People were illiterate. There was no books being printed. The technology wasn't there. And that's another science fictional thought. I think how the technology, you know, 14, you know, Gutenberg changed things like this. Some of the current technology changes things like this too. The way music or literature gets to the audience in the first place, and you can now do a poem, and people can read it. In those days, if it wasn't a song, it wasn't.
Of course, for sure.
Est-ce que quelqu'un a encore une petite question à poser à nos deux intervenants ? Oui.
Alors moi j'ai une question, c'était pour Monsieur Pinas. En fait, moi il y a un groupe de rock des années 90-2000 qui a sorti un album en 97 où, je suis désolé de reparler de Monsieur Dantec, mais où Monsieur Dantec était intervenu, et c'est un groupe, moi, c'est un album qui m'a marqué, Utopia de No One Is Innocent. Et alors j'en profite, si jamais, je me suis toujours demandé comment ils avaient fait pour travailler ensemble, alors qu'on a l'impression qu'ils ont des idées vraiment totalement opposées.
Alors, très franchement, je ne sais pas, parce que je déteste ce groupe.
Ah d'accord.
Enfin, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Donc, voilà, et je n'avais pas du tout écouté ce que faisait Maurice avant avec eux.
D'accord.
Donc après leur rapport, je sais qu'il y avait des rapports très éloignés. Quand j'ai connu, il avait des rapports très éloignés avec eux.
D'accord,
mais,
ok.
Ça fait partie de toute une bande de groupes français qui font un album, deux albums et qui disparaissent. Et puis voilà.
Ils sont toujours là, mais...
Oui, ils sont peut-être revenus, mais bon.
Mais non, mais c'était intéressant parce qu'ils ont tellement des visions opposées que je m'étais demandé comment ils avaient fait pour travailler ensemble. Mais...
Je ne peux pas parler à sa place.
D'accord, mais c'est pas grave. Merci.
Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle? Oui, monsieur.
Oui, bonjour. Une question pour Richard également. Comment voyez-vous l'évolution, on va dire pratiquement depuis 50 ans, des musiques électroniques et grâce à la démocratisation de la technologie notamment? Pensez-vous que c'était plutôt positif ou vous pensez que...
Je me suis posé souvent la question et moi j'ai arrêté les synthétiseurs il y a une vingtaine d'années, puis je viens même maintenant justement par envie de trouver autre chose, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu grand-chose de fait après les années, on va dire, 92, 95, ça s'arrête là, quoi. Après, il n'y a plus de... Je ne vois pas très bien ce qu'il y a eu de créer. Alors, je ne connais pas tout, hein, je n'ai pas tout entendu. Il y a des bons groupes, mais qui font que reprendre des choses qui ont déjà existé. Dans ce qui est de l'innovation, si c'est ce qu'on cherche, je ne vois pas très bien. Mais peut-être que le tour a été fait, puis ce n'est pas grave, il faut passer à autre chose. Et non plus au synthétiseur, mais à autre chose. Et non plus à la musique électronique, mais à autre chose. Il faut dire que l'idéal serait une musique sans notes, sans... serait proche, mais c'est plutôt une idée, plutôt qu'autre chose, du bruit blanc. Quoi. Mais après, faire écouter du bruit blanc aux gens pendant des heures... Aller plus loin que la noise japonaise, par exemple, c'est difficile. Même au niveau synthétiseur. Donc viendra peut-être un moment une génération de gens qui auront d'autres idées, mais là, depuis une vingtaine d'années, ça me semble un peu fini. Enfin, de ce que je connais pas tout, heureusement.
Eh bien, il est temps de remercier nos deux intervenants. Merci à vous de les avoir écoutés, puis vous les retrouvez en dédicace. Merci.